Crayon.
Merci, Seigneur notre Dieu. Merci d'être là ce matin pour te rendre ce culte et merci pour ta parole que nous pouvons encore ouvrir ensemble maintenant. Et nous désirons, notre Dieu, que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs pour que nos vies t'honorent, pour que nous ayons une conduite qui t'honore, que notre foi soit renouvelée, que notre foi soit encouragée, que nous puissions recevoir de ta part ce dont nous avons besoin pour être des enfants de Dieu obéissants, des enfants qui marchent sur les traces de leur Père et de leur frère, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est en son nom que nous te prions. Amen.
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 Nous lisons d'abord dans Matthieu 27. Matthieu 27. Les versets 45 à 54. Matthieu 27. Verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Et nous retournons dans Hébreux, au chapitre 9. L'Épître aux Hébreux, le 9e chapitre. Et nous lisons les 14 premiers versets. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous faire désirer retourner en arrière, c'est-à-dire abandonner la vraie foi, tourner le dos au pur évangile de la grâce de Dieu pour de nouveau nous appuyer sur des rites, sur des cérémonies, sur des préceptes religieux plutôt que sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Je pense que les trois principales raisons qui peuvent nous donner l'envie de rebrousser chemin, et qui étaient, semble-t-il, aussi celles des Hébreux à qui cette lettre est adressée, en tout cas pour la première et la troisième raison que je vais évoquer, ces principales raisons sont celles-ci. Premièrement, la facilité d'un culte formaliste où le combat de la foi n'est pas nécessaire, puisqu'il suffit d'assister à des cérémonies, à une liturgie très élaborée, la plupart du temps baignée dans un décorum pompeux. Le culte de l'Ancienne Alliance était plein de ces choses-là. Il était voulu par Dieu, oui, mais seulement jusqu'à une époque de réformation, comme le dit le verset 10 de notre texte. Cette époque de réformation est arrivée quand le Fils de Dieu est venu sur la terre pour porter nos péchés sur la croix et ressusciter pour notre justification, nous donnant de cette manière la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup de cultes aujourd'hui ressemblent étrangement à celui de l'Ancienne Alliance. On trouve ça en particulier dans l'Église catholique romaine et aussi dans l'Église orthodoxe. Deuxième raison qui peut nous conduire à vouloir abandonner le pur évangile de la grâce de Dieu, c'est que le chrétien doit passer par bien des combats, par bien des afflictions. Et souvent, on a l'impression que Dieu est absent, qu'il permet des choses qui sont à nos yeux intolérables. Maladie, perte d'un enfant, difficultés insolubles dans le couple, chômage qui s'éternise, problèmes financiers écrasants. Et enfin, la troisième raison, c'est la persécution ou les moqueries. Il semble que c'est ça principalement à quoi les Hébreux étaient confrontés. Avec en plus une forte incitation de la part des Juifs pour qu'ils reviennent, ces chrétiens hébreux, qu'ils reviennent aux pratiques cérémonielles de la loi de Moïse. Voilà donc le but de cette lettre. Encourager ces chrétiens d'origine juive à ne pas abandonner, mais au contraire, à persévérer dans toutes les promesses de Dieu, en s'appuyant fermement sur l'Écriture, en ayant une intelligence renouvelée. C'est pour ça, comme on l'a vu, que l'auteur s'appuie tellement sur l'Ancien Testament pour étayer son argumentation. Parce que tout l'Ancien Testament pointe vers le Christ, vers un sacerdoce qui ne sera plus terrestre, mais céleste. Dans les 8 premiers chapitres de sa lettre, l'auteur nous a fait la démonstration de la supériorité du Seigneur Jésus, Dieu fait homme, sa prééminence, son excellence, même par rapport aux anges, qui sont pourtant des créatures célestes au service de Dieu, mais aussi par rapport à Moïse, le grand médiateur de l'Ancienne Alliance, et aussi par rapport à tout le système lévitique, c'est-à-dire tout le système de la prêtrise de l'Ancienne Alliance, avec les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui faisaient office de médiateurs entre le peuple d'Israël et l'Éternel, entre autres en offrant continuellement des sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés. L'auteur nous a donc apporté la preuve que le Seigneur Jésus, ce fils de Marie et de Joseph, était bien le seul sacrificateur, souverain sacrificateur dont nous avons besoin, parce que c'est le seul qui puisse nous procurer la paix avec Dieu. Tous ceux de l'Ancienne Alliance, qui étaient tous de la tribu de Lévi et des descendants de la famille d'Aaron, ont eu leur utilité. Ils ont plus ou moins rempli le rôle que l'Éternel leur avait assigné. Mais ce n'était que pour un temps. Justement parce que dans le plan éternel de Dieu, la première alliance devait être suivie d'une deuxième. Ce qui signifie qu'au sacerdoce lévitique, qui était à la fois charnel et passager, devait succéder un sacerdoce spirituel, qui lui serait éternel. Pourquoi le sacerdoce lévitique est-il charnel ? Eh bien, tout simplement parce que ce n'étaient que de simples hommes qui en étaient chargés et qui, par conséquent, étaient remplacés au fur et à mesure de leur mort ou de leur limite d'âge. Dans un autre sens, le sacerdoce lévitique était charnel parce qu'il n'a rien amené à la perfection. Et ça, bien sûr, à cause du péché. Et le péché qui était dans le cœur de chaque Israélite et donc aussi dans le cœur de chaque sacrificateur et souverain sacrificateur. Mais dans son plan éternel encore, Dieu a mis en place ce qui allait permettre à son peuple d'atteindre la perfection et le rétablissement de toutes choses. La solution, c'est de faire paraître un nouveau souverain sacrificateur. Non pas selon la ligne ou selon l'ordre charnel d'Aaron, mais selon l'ordre éternel de Melchisédek. Non pas par descendance humaine, parmi la tribu sacerdotale lévitique, la seule que Dieu avait désignée pour exercer le sacerdoce, mais par sa libre et souveraine décision, en tirant un homme d'une autre tribu, de la tribu de Juda, un homme qui ne serait autre que son propre fils, le fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, né du sein de la Vierge Marie par la vertu du Saint-Esprit. Et encore bien plus, si les Lévites pouvaient devenir sacrificateurs tout simplement par filiation, de père en fils, Jésus, lui, l'est devenu par serment. Par serment de Dieu son Père qui lui a dit, sur verset 21 du 7e chapitre, « Le Seigneur a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Et dans le même chapitre, verset 18, l'auteur affirme qu'il y a abolition d'une ordonnance antérieure, donc celle de l'alliance ancienne et du sacerdoce lévitique, son abolition à cause de son impuissance et de son inutilité, parce qu'elle n'a rien amené à la perfection, qu'elle n'a pas donné l'espérance qui permette de nous approcher de Dieu. Abolition de la première alliance. Et maintenant, verset 7 du chapitre 8, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et encore le verset 13, en disant « une alliance nouvelle », il a déclaré « ancienne la première ». Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Et en effet, avec la venue du Seigneur Jésus sur la terre, pour offrir sa vie en sacrifice pour son peuple, la première alliance a été abolie. Et il n'est donc pas question de la remettre au goût du jour, de quelque manière que ce soit, par exemple par toutes sortes de cérémonies qui voilent en fait les perfections de l'évangile. Et surtout pas non plus en édifiant un troisième temple à Jérusalem, ce qui serait une absurdité, un non-sens complet, un outrage au sacrifice unique et éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas dans cette volonté de construire un troisième temple un germe du blasphème contre le Saint-Esprit. Ça m'est venu à l'esprit, je ne sais pas. Mais revenons au texte de l'Épître aux Hébreux. Ce que l'auteur est en train de nous montrer maintenant, depuis le début du 8e chapitre, c'est justement la prééminence, l'excellence de la nouvelle alliance. L'excellence. On ne peut rien faire de mieux. On ne peut rien y ajouter. On ne peut rien refaire de l'ancienne pour parfaire la nouvelle. Je vous renvoie ici à la parabole du drap neuf et des outres neuves, Luc 5, 36 à 39. Déjà au début de ce 8e chapitre, l'auteur soulignait un point capital. C'est que notre souverain sacrificateur, Jésus, à la fois dans son humanité et dans sa divinité, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Il s'y est assis comme ministre, non pas d'un sanctuaire terrestre, un tabernacle, c'est-à-dire une tente dont les toiles étaient des peaux d'animaux cousues ensemble, ni même un temple, aussi majestueux soit-il comme l'était celui de Salomon. Non, Jésus est devenu ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé non pas par un homme, mais un sanctuaire dressé par Dieu lui-même. On y reviendra à la fin de la prédication. Mais en attendant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le peu de choses que nous avons dit jusqu'à présent, nous voyons déjà à quel point les ordonnances anciennes n'étaient vraiment que l'ombre de ce que Dieu allait établir par son Fils Jésus. Dans la première alliance, nous n'avions que des images des réalités célestes. Dans la seconde alliance, nous entrons de plein pied dans cette réalité. De la même manière que nous avons dit que nous entrons déjà par la foi dans le repos de Dieu. Nous y entrons parce que notre précurseur, Jésus, y est entré lui-même. Commençons maintenant le 9e chapitre. Et là, que fait l'auteur? Il nous dresse un état des lieux. Il nous fait la description très sommaire du tabernacle en nous indiquant simplement la disposition des éléments les plus significatifs. Des éléments qui ont tous un rapport étroit avec le nouveau sacerdoce, celui de notre grand médiateur, notre grand prêtre, le Seigneur Jésus. D'emblée, au premier verset, le ton est donné. Il est donné en ce que l'opposition est fortement soulignée en ce qui concerne l'emplacement des deux tabernacles, des deux sanctuaires, celui de la première et celui de la deuxième alliance. Pour ça, il faut comparer le début de ce 9e chapitre avec les deux premiers versets du chapitre précédent, le 8e. Dans la nouvelle alliance, le sanctuaire est céleste et c'est donc au ciel que s'exerce essentiellement le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors que dans la première alliance, le sacerdoce lévitique s'exerçait exclusivement dans un sanctuaire terrestre. Un sanctuaire qui exigeait que les hommes de la tribu de Lévi, durant la traversée du désert, s'emploie à monter et démonter, à transporter, puis à remonter et à redémonter et à retransporter le tabernacle. Plus tard, avec le temple, ce sera bien différent. Mais il faudra quand même, pour l'édification du premier comme du deuxième temple, que des milliers d'hommes participent à leur construction. On avait vu par exemple ça dans le livre d'Esdras. Donc dans le début de ce chapitre 9, il nous est rappelé que le tabernacle lui-même, qu'on appelle aussi la tente d'assignation ou la tente de la rencontre, parce que c'est là qu'on rencontrait Dieu, ont le souverain sacrificateur, et une fois par année. Donc il nous est rappelé que le tabernacle, comme ensuite le temple, comporte deux parties bien distinctes. Vous remarquerez en passant qu'il n'est pas fait mention ici du parvis, qui est l'espace dans lequel pouvaient entrer les Israélites et dans lequel se trouvait l'autel des holocaustes. C'était là, dans le parvis, que les animaux étaient égorgés et qu'on offrait les sacrifices. On le voit sur l'image. Juste petite remarque en passant. Il y a ici un terrain de foot, là. Donc, le terrain de foot n'est pas à comparer avec le tabernacle ici, mais avec celui-là, ici. Le petit, là. C'est pas très grand, en fait. C'est plutôt petit. Alors non, l'auteur nous parle seulement ici des deux endroits sacrés où le culte de l'Éternel était célébré, ce qui est en fait le tabernacle proprement dit, la tente, comme on le voit très bien sur l'image. Dans la première partie était appelée la première partie était appelée le lieu saint, et les sacrificateurs y entraient en franchissant un premier voile, une sorte de rideau épais. Et là, on y avait disposé un grand chandelier à 7 branches, une petite table sur laquelle on déposait quelques pains, les pains de proposition, et puis aussi, comme l'indique Exode 30, l'autel des parfums. C'est ce que l'auteur semble bien appeler au verset 4 de notre chapitre, l'encensoir d'or pour les parfums. Bon, là, je mentionne juste en passant un petit problème que les commentateurs n'arrivent pas à s'expliquer. Et il y a d'ailleurs en tout cas 7 solutions différentes proposées pour résoudre ce problème qui est celui-ci. Pourquoi l'Épître aux Hébreux mentionne-t-elle l'autel des parfums sous le nom de l'encensoir d'or, parce que l'encensoir n'était pas en or en fait, qui était bien un ustensile du culte, mais dont l'emplacement n'était pas précisé dans la Bible. Et pourquoi l'auteur de l'Épître place-t-il cet autel des parfums dans le lieu très saint, alors que par exemple Exode 30 le place dans le lieu saint ? Rassurez-vous, on ne cherchera pas à résoudre cette énigme ce matin. Mais on peut quand même affirmer que l'autel des parfums jouait un rôle particulier une fois dans l'année, le jour où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. C'est peut-être tout simplement ce qui explique pourquoi l'auteur ici le place dans le lieu très saint. Bref, donc justement, en franchissant le deuxième voile, le deuxième rideau, comme on vient de le dire, le souverain sacrificateur, le grand prêtre, pénétrait une seule fois par année au jour des expiations. Il pénétrait dans le lieu très saint dans lequel se trouvait l'arche de l'Alliance, qui était un coffre en bois entièrement recouvert d'or. Ce coffre avait un peu les mêmes dimensions qu'une grosse malle, comme on en trouvait il n'y a encore pas très longtemps dans Nogalta. Donc un coffre qui était fermé par un couvercle d'or qu'on appelait le propitiatoire, sur lequel étaient fixés deux chérubins, les anges, recouverts d'or eux aussi. Et les deux chérubins se faisaient face l'un à l'autre en couvrant de leur ombre le propitiatoire avec leurs ailes. Qu'y avait-il dans l'arche ? Trois choses. Un vase d'or qui contenait un peu de cette manne que Dieu avait fait descendre du ciel pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert. La verge d'Aaron qui avait fleuri, je vous renvoie ici à Nombre 17 pour comprendre ce qui s'est passé là, et bien sûr les tables de l'Alliance, c'est-à-dire les tablettes en pierre sur lesquelles le doigt de Dieu avait écrit les 10 commandements. On les appelle aussi les tables du témoignage. Parce qu'en donnant sa loi, l'Éternel a témoigné de qui il était et aussi de ce qu'il attendait de son peuple, la sainteté. La sainteté qui est tout simplement de vivre en conformité avec la parole de Dieu, en conformité avec sa loi, avec sa personne. Chose qui nous a été rendue possible par la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Je vous rappelle juste en passant ce passage de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alors ne nous laissons pas intimider par le péché. Ce péché qui est en nous, qui est tapis à notre porte parfois. Ne nous laissons pas intimider par la chair qui cherche à imposer sa loi. Rappelons-nous que nous sommes morts avec le Christ sur la croix et que le jour de Pâques, nous sommes ressuscités avec lui en une vie toute nouvelle. C'est ce qui nous permet dorénavant de marcher avec détermination en suivant ce que nous enseigne le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit ne vit-il pas dans votre cœur? Soyons attentifs à ce qu'il nous montre, en nous souvenant de cette parole de Paul, cette fois, qui dit dans l'Épître aux Galates 5, 16 à 18, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Deuxième partie du verset 5. Ouf ! L'auteur nous dit que ce n'est pas le moment de parler en détail de ces choses, celles qui sont disposées dans le lieu saint, ni même celles qui sont dans le lieu très saint. On s'économise comme ça pas mal d'explications. Je pensais vous les donner, mais puisque l'auteur dit non, on ne va pas en parler maintenant, je ne vais pas vous en parler non plus. Mais rassurez-vous, nous verrons tout ça quand nous étudierons ensemble le livre de l'Exode. Et donc, on ne s'y arrêtera pas ce matin. Mais maintenant, pourquoi l'auteur nous parle-t-il maintenant du tabernacle? Quelle est la leçon qu'il veut nous donner par rapport au Seigneur Jésus-Christ, ou en rapport avec lui? Pour répondre à cette question, il nous faut comprendre de quelle réalité le tabernacle est l'image. Pour le peuple d'Israël, à quoi faisait référence le lieu saint et le lieu très saint? Quelle est la réalité qu'il y a là derrière? C'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite du texte. Et nous sommes aux versets 6 et 7 qui vont commencer à nous donner la réponse à cette question. Les sacrificateurs entrent en tout temps, chaque jour, dans la première partie du tabernacle, dans le lieu saint. En revanche, verset 7, dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur peut entrer, et encore une seule fois par année. Et attention, il ne peut pas pénétrer au-delà du voile sans prendre avec lui du sang animal qu'il va offrir pour lui-même et pour les péchés du peuple. Autrement dit, le culte ordinaire que rendaient les sacrificateurs avait lieu tous les jours dans le lieu saint. Et par conséquent, s'il est vrai que Dieu n'était pas loin, puisque la rencontre avec lui ne pouvait avoir lieu que de l'autre côté du voile, dans le lieu très saint, eh bien de ce côté-ci du voile, dans le lieu saint, la communion avec lui était impossible. Cette impossibilité est symbolisée ou représentée justement par le voile. C'était Péridot qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Donc, pourquoi la communion avec Dieu n'est-elle pas possible? Pourquoi le franchissement du voile était-il formellement interdit sous peine de mort? Sauf une fois par année. La réponse est facile, à cause de la sainteté de Dieu et du péché de l'homme. Comme nous le savons, le péché qui nous habite, que nous avons hérité de nos premiers parents, a dramatiquement et durablement affecté notre relation avec Dieu. C'est exactement ce que symbolise le tabernacle. Mais il symbolise encore une autre chose qui est plus encourageante. C'est que Dieu ne veut pas en rester là avec nous. Il ne le voulait pas non plus avec les Israélites dans le désert. à travers le tabernacle, il leur faisait comprendre qu'il désirait que son peuple s'approche de lui, qu'il cherche à le connaître et à le servir, à lui faire confiance, en lui rendant continuellement un culte. Mais en même temps, Dieu tenait son peuple à distance. Il n'acceptait pas, même parmi les sacrificateurs, que l'on s'approche de lui. À une exception près, une fois dans l'année, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui pénétrait dans la présence de Dieu, présence qui était symbolisée par l'arche de l'Alliance, avec ce qu'elle contenait, et le propitiatoire gardé par les deux chérubins. Avec le tabernacle, Dieu se faisait proche de son peuple, tout en marquant une distance significative et aussi de manière significative l'impossibilité d'une réelle communion à cause de ce seul obstacle. Mais quel obstacle? Le péché. Regardons maintenant les versets 8 à 10. D'abord le verset 8 qui est vraiment intéressant parce que il est parlé du Saint-Esprit. Oui, dans cette question du tabernacle que nous sommes en train de traiter, l'auteur nous dit que c'est le Saint-Esprit qui en utilisait le symbolisme, donc ce que représentait le tabernacle. C'est le Saint-Esprit qui utilisait ça pour montrer aux Israélites que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Et si, bien sûr, il s'agit du lieu très saint du tabernacle du ciel, dans la présence effective de Dieu, ou d'une communion réelle avec lui. Ce chemin-là n'est pas encore ouvert. C'est ce qu'indiquait le tabernacle terrestre. Ce tabernacle terrestre avait été voulu par Dieu, puisque c'est lui-même qui avait ordonné à Moïse de le construire d'après le modèle que justement le Saint-Esprit lui avait montré sur la montagne. C'était un symbole pour le temps du désert, comme serait ensuite le temple, jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Tant que le premier tabernacle, tabernacle terrestre, subsisterait, tant qu'il correspondrait à la volonté de Dieu pour son peuple, que le Saint-Esprit l'utiliserait pour l'enseigner, eh bien, le chemin du lieu très saint, l'accès à Dieu dans le sanctuaire céleste, resterait irrémédiablement fermé. Et donc le culte rendu à Dieu par le moyen du tabernacle, puis du temple, était la démonstration que les dons et les sacrifices, tout ce qu'on offrait à Dieu en fait, ne pouvaient pas rendre parfait celui qui rendait un tel culte. Mais vous savez, même aujourd'hui, tout ce que vous voudriez offrir à Dieu pour obtenir ses faveurs, pour vous faire, entre guillemets, bien voir, pour être assuré de son amour, de son pardon, rien de tout ça ne peut vous rendre parfait si c'est ça le culte que vous rendez à Dieu. D'ailleurs, l'auteur précise, fin du verset 9, il dit « rendre parfait sous le rapport de la conscience ». Ce qui signifie que la multiplicité des offrandes et des sacrifices, tout ce qu'on voudrait offrir à Dieu pour se racheter, pour se faire pardonner, ou pour lui prouver qu'on n'est quand même pas si mal que ça, eh bien tout ça, loin de manifester une conscience paisible, au contraire, manifeste justement l'imperfection de celui qui fait tellement d'offrandes et de sacrifices à Dieu. Et en faisant ça, il montre son besoin d'être sinon justifié, en tout cas reconnu comme juste. Parce que les hypocrites désirent seulement être reconnus comme justes. Tandis que ceux qui cherchent réellement à plaire à Dieu manifestent le besoin non pas d'être reconnus, mais d'être justifiés. Et nous savons par la Bible que nous ne pouvons pas être justifiés par nos sacrifices ou par quelque offrande que ce soit, même l'offrande de notre corps. mais uniquement par le sacrifice et par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est justement la suite de notre texte qui nous en parle maintenant. Et nous relisons les versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le Christ est donc venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Qu'est-ce que c'est, ces biens à venir? Ils correspondent aux promesses de Dieu. Promesses dont tous ceux qui ont une foi vivante en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux, entreront en possession. Ces biens à venir sont donc pour vous. Si vous avez été touché par la grâce de Dieu et que vous lui avez donné votre vie. Mais que dit notre texte? Que notre souverain sacrificateur a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait. Un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme, tout simplement parce qu'il n'est pas de cette création. Ce tabernacle, vous ne le trouverez nulle part sur cette terre. Aucune trace dans le monde entier. Non, parce qu'il est au ciel. Il est précisément là où nous serons tous réunis un jour, tous les authentiques enfants de Dieu, pour vivre l'éternité avec lui. Verset 12. Jésus le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. C'est une autre manière d'exprimer ce que nous lisions dans le verset précédent. Il a traversé le tabernacle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance traversait lui aussi le tabernacle. Il passait le voile, mais il n'y restait pas. Il en ressortait peu de temps après et il n'y retournait plus une année entière. En plus, répétons-le une dernière fois, ce tabernacle dressé au centre du camp des 12 tribus d'Israël, au centre, toutes les tribus étaient autour. Ce tabernacle-là n'était qu'une image, l'image d'une réalité céleste à venir. Et donc, comme on l'a déjà dit aussi, le sang que le souverain sacrificateur a porté avec lui pour le péché du peuple et pour ses propres péchés ne pouvait pas le rendre parfait. Parce que ce sang animal, lui aussi, était une préfiguration. Une image du seul sang à jamais capable de nous purifier de tous nos péchés et de nous rendre parfaits aux yeux de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est entré une fois pour toutes dans la présence de Dieu en lui présentant son propre sang, le sang de l'Alliance qui a été répandu pour beaucoup, comme le dit Jésus lui-même au moment où il institue la scène. Dans l'ancienne Alliance, le sang des taureaux et des boucs, par la grâce de Dieu, procurait la pureté de la chair, mais pas de la conscience. Le sang du Christ nous purifie entièrement et nous procure éternellement la paix avec Dieu. Ça ne peut pas être une œuvre humaine que nous gagnerions par nos efforts, par notre bonne conduite, par nos prières, par notre générosité et notre bonté envers notre prochain. Non, rien de tout ça, parce que c'est entièrement l'œuvre de Dieu. C'est par pure grâce. Le salut ne s'obtient que par le moyen de la foi. Croire de tout son cœur les promesses de Dieu. Nous repentir de nos péchés. Reconnaître devant le Seigneur notre nature pécheresse. Et recevoir alors sa grâce. Accepter de mourir avec lui sur la croix. Nous considérer comme morts à notre ancienne vie. Et donc, renoncer à ce qui faisait notre honte. Nous en avons dorénavant la capacité de renoncer au péché. Et vivre maintenant de la vie du Christ ressuscité. Tel est le message de Pâques. que le Saint-Esprit nous propose aujourd'hui, en nous exhortant à croire toutes les paroles de Dieu. Pour terminer, encore une parole du Christ à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen.